CFAQ.ca.
Le balado que vous écoutez est une exclusivité de CFAQ.
CFAQ 88.3, l'essence de la radio.
Qu'est-ce que c'est, print?
Rien, c'est un truc pour aérer l'écran. Comme ça, les lignes ne seront pas trop rapprochées.
Ah, il s'agissait d'y penser.
Au moment où on se parle, vous êtes tous assis devant la télévision à avoir du plaisir. Qu'est-ce que c'est ça? Pensez-vous que les Chinois sont en train de regarder le bye-bye? Non, monsieur!
Les enfants auront besoin d'une connaissance des ordinateurs dans le futur.
On le sait, la téléphonie cellulaire se développe à un rythme très rapide. Deux nouveaux appareils. Le premier permet à son utilisateur de faire ses appels strictement avec la voix. Et quant au deuxième, il n'est pas plus gros qu'un paquet de cigarettes.
Read, data et restore.
À vos ordres, chef.
Bon.
Et oui, midi une, et vous êtes en compagnie d'Éric Laverdure devant vos écrans. Cette nouvelle émission de technologie d'information, d'ordinateurs, de patentes connectées, de gadgets, bref, tout pour le fan d'électronique et encore plus également. Alors, je me présente, Éric Laverdure, directeur général de CFAQ 88.3, votre radio universitaire sur le campus de l'Université de Sherbrooke. Je suis avant tout un grand passionné de technologie, un grand passionné de gadgets, de jeux vidéo, de télévision, bref, j'adore tout ce qu'il y a des écrans. Et je suis également aussi un bachelier en politique. Alors, il y a tous ces éléments-là qui se regroupent et c'est ça que je veux vous faire connaître dans cette nouvelle émission qui est devant vos écrans. Alors, en espérant que vous allez bien, ce beau mercredi 14 octobre 2020, plein de choses sur la planche, notamment, on va parler aujourd'hui, en fait, on va parler de octobre 70, son impact, oui, dans nos vies, dans nos sociétés, et également le contenu documentaire et télévisuel qui a été produit pour cette commémoration-là du 50 ans de la crise d'octobre. Sinon, on va également parler de ce nouvel iPhone. Vous savez, hier, il y a eu le grand événement d'Apple qui présentait, encore une fois, un autre iPhone. Va-t-il être différent des autres? Sûrement pas, mais ça, on verra ça un petit peu plus tard dans l'émission. Et sinon, on va également parler de l'application Alerte COVID. Est-elle utile ou non? Eh bien, ça, c'est pas à moi de vous dire de l'utiliser ou non. Ça, c'est vraiment, ça vous regarde de notre côté. Mais je peux quand même vous parler de quelques problèmes que je trouve personnellement aurait cette application-là pour en fait, l'utilisation du grand public. Et sinon, eh bien, je voulais revenir sur ce fameux documentaire-là de Social Dilemma. Est-ce que c'est une crise des médias ou bien une crise du capitalisme? On en parlera certainement vers la fin de l'émission, mais juste avant, on va aller parler de Les Roses et d'Octobre 70. Alors, les commémorations sont un excellent moment pour découvrir, même redécouvrir des films, des documentaires qui ont marqué l'époque ou qui l'expliquent davantage. Eh bien, on le sait tous, la crise d'octobre, c'est les événements d'octobre 70. Pour faire un petit résumé, c'est un mouvement révolutionnaire inspiré des mouvements plus européens qui ont fauché le Québec et différents pans du mouvement souverainiste. Bien que pas seulement un mouvement souverainiste, la crise d'octobre fut marquante par sa violence, que ce soit du côté du FLQ que celle des gouvernements en place, mais aussi pour cette implosion culturelle qu'elle a causée, parce que oui, après octobre 70, il y a comme eu une remise en question du souverainisme québécois, une remise en question exactement de qu'est-ce qu'être québécois dans ce monde qui nous entoure. Sans tomber dans le discours politique, il est important, selon moi, de bien connaître cette histoire et rien de mieux pour la connaître que d'écouter quelques documentaires et qui parlent très bien de cette époque. Alors tout d'abord, le documentaire « Les Roses » par Félix Rose, on en a parlé amplement, il y a beaucoup d'autres émissions qui en ont parlé. On a eu une entrevue avec Félix Rose dans le Touski, notamment qui nous a parlé de sa démarche pour réaliser ce film, qui fut le film ayant le fait le plus d'argent cette année pour l'ONF. Alors c'est quand même assez intéressant de ce côté-là, vous savez, étant donné qu'il y a eu, on se le cachera pas, hein, j'en ai pas parlé du début, mais en fait, oui, on en a parlé à cause de la COVID, de l'alerte COVID, mais il y a cette pandémie-là de COVID-19 qui nous frappe de plein fouet un peu partout dans le monde, au Québec, au Canada, ne sont pas laissés pour rien. Alors, bref, il y a eu une très belle conjoncture, si on peut utiliser ce terme-là, pour que le film Les Roses, qui était un film documentaire qui était simplement mis sur les écrans parce que ben il y avait pas grand-chose à faire, ben a fait tellement d'argent parce que les jeunes, les Québécois se sont dit ben nous on va aller écouter un film au cinéma, on va aller encourager nos cinémas et que de mieux que d'aller écouter un film québécois pour encourager les films québécois. C'est ça. Alors comme je vous le disais, c'est vraiment complexe la sortie d'un film. Alors c'est comme ça que grâce à tous les studios, par exemple, qui ont décidé de faire comme « Ah non, pas cette année, on va pas sortir de grands films », on l'a vu avec Tenet, notamment, de Christopher Nolan, qui s'est pas planté, mais qui a pas fait l'argent escompté. Bref, les gens ne sont pas de retour au cinéma. Alors, rien de mieux que de sortir des films comme Les Roses, lorsqu'on l'a fait pendant le déconfinement cet été. Alors, c'est quoi le film Des Roses, Les Roses? Eh bien, c'est un mix entre un documentaire politique et familial. Les Roses nous emmènent directement dans la famille de Félix Rose, fils de Paul Rose et neveu de Jacques Rose. Ces hommes étaient parmi les membres de la cellule Chénier, cette cellule du FLQ, qui ont enlevé et par la suite tué accidentellement le ministre du Travail, Pierre Laporte. Alors, Félix Rose nous présente par son attachement familial les membres de la famille Rose et leur impact sur le Québec d'aujourd'hui. Alors, on ne parle pas simplement du FLQ, on ne parle pas juste aussi de, par exemple, les événements qu'on sait tous. Par exemple, ben, il y a eu l'enlèvement de James Crotch, il y a eu l'enlèvement de Pierre Laporte. Pierre Laporte est décédé à cause d'un malentendu. Bref, ça, on le saura jamais. En fait, oui, on le sait que ça a été une mort accidentelle, mais on ne sait pas dans quel contexte ça a été fait. Et ben, ça nous permet, en fait, ce film-là, de nous faire une tête sur qu'est-ce qu'étaient les gens de l'époque d'octobre 70. Parce que oui, c'est important de parler de la cellule Chénier, de parler du gouvernement, de parler de Trudeau, tout ça. Mais le film Les Roses, selon moi, nous emmène une vision dans une famille, oui, un peu plus politisée, mais quand même une famille du Québec à cette époque assez trouble. Alors, on rencontre notamment le personnage de Rose Rose, qui est la mère des Roses, un très beau nom, hein, Rose à la deux, et qui est une femme exceptionnelle par son militantisme, par le fait qu'elle est attachée à ses fils, qu'elle les défend. Bref, il y a quelque chose de beau à voir dans ce film-là, et c'est quelque chose que je vous recommande d'aller voir sur le site de l'ONF. Il est offert gratuitement parce que ben, il y a tellement fait d'argent ben, qu'on veut en redonner à la population. Alors ça, c'est quelque chose de pas négligeable. Sinon, un autre documentaire qui est disponible également sur le site de l'ONF et sur les événements. En fait, le titre du film, c'est « Les événements d'octobre 70 ». Ça a été réalisé par Robert Spry. C'est un documentaire datant de 1974 et qui nous présente les images d'archives pour mieux raconter les événements d'octobre, oui. Alors, moi, personnel, quel film de Félix Rose, c'est sûr que là, c'est un film beaucoup plus documentaire. Le film de Robert Spy a malgré tout l'avantage d'être fait seulement 4 ans après les événements, ce qui lui permet d'être réellement collé sur la situation. Alors ça, c'est quand même assez intéressant de ce côté-là. On peut voir des images d'archives, on sait qu'est-ce qui se passe, par exemple, les militaires dans les rues, les gens qui se font arrêter. Bref, le film de Robert Spry nous permet un peu cette incursion-là dans le monde d'octobre 70, mais d'un point de vue plus documentariste, plus le documentaire québécois-canadien qu'on sait de l'ONF. Là. Et sinon, ben, un dernier film que je vous recommande et qui est disponible sur YouTube et même gratuitement, cependant, j'ai pas réussi à trouver le lien, mais j'ai cru le voir sur Facebook qui était disponible gratuitement, c'est le film d'octobre de Pierre Falardeau. C'est un film dramatique qui retrace les événements de la cellule Chénier. Alors, on voit vraiment la vie des gars avec le prisonnier de M. Laporte. Alors, c'est de quoi de quand même assez intéressant. On voit les discussions, on voit les troubles, on voit les problèmes des hommes qui ont été pendant quelques semaines les hommes les plus recherchés au Canada. Alors, c'est de quoi d'assez... Oui, c'est dramatique, oui, c'est Falardeau, mais c'est de quoi d'assez intéressant par sa filmographie, mais aussi par la thématique, bref, apportée par ce film, d'un point de vue beaucoup plus personnel que par exemple, un documentaire comme Robert Spry, parce que là, c'est juste des images d'archives, bref. Là, on a vraiment le vécu des gars de la cellule Chénier. Alors, bref, c'était mes recommandations, un peu pour les films sur la commémoration d'octobre. C'est sûr que c'est. Moi, je trouve ça royalement important d'apprendre, en fait, de qu'est-ce qui s'est passé à octobre 70, d'apprendre aussi comment le Québec vivait, comment les gens vivaient, et toute cette implosion-là que ça nous a donné par la suite en tant que peuple, en tant que société. Bref, ça s'est passé assez... ça s'est passé vite, oui, les événements d'octobre 70, mais c'est quand même une grande construction et que si on la place dans son époque, ben, le Québec n'était pas seul avec des mouvements comme ça. Il y avait des mouvements comme ça en Italie, en Allemagne. Bref, la vague rouge, hein, qu'on pourrait même appeler, il y en avait un peu partout. On pense à l'Algérie. Alors, il ne faut pas simplement dire « Ah, ben là, c'est une gang de Québécois fâchés. » Ce n'était pas juste des Québécois fâchés. C'était des ouvriers, c'était des travailleurs fâchés. Et je pense qu'avec les films que je viens de vous nommer, c'est un très bon moyen pour vous de vous faire peut-être une autre vision de cet événement qui a marqué le Québec. De notre côté, bon, on s'en va immédiatement en musique. Moody, Hugo Moody, le chanteur de St. Catharines, s'en vient à l'instant. Il va également avoir du Plant and Animals avec le Queen. Mais on s'en va écouter Moody avec Kucherov. Tout ça et encore plus au CFAK 88.3.
Pour une fois, plate par les
retour à Devant vos écrans. Il est présentement 12h17, toujours en compagnie d'Éric Laverdure, en espérant que vous allez toujours bien. Et oui, on le sait. Alors, je suis sûr que la plupart des gens qui se sont connectés pour m'écouter ou qui sont là présentement pour m'écouter attendaient cette fameuse chronique. On dit quoi? Éric va parler du iPhone. Et oui, effectivement, semblerait que il faut quand même parler de tout ce qui se passe un peu dans la planète techno, malgré nos préjugés, malgré nos camps, nos petites peurs, bref, reliées à tout ce monde-là. Alors aujourd'hui, je vais vous parler en fait de l'iPhone 12. Et oui, on est déjà rendu à l'iPhone 12. Rappelez-vous, oui. Venez avec moi, on se déplace. Je me rappelle la cour d'école, secondaire 1, 2, 3 peut-être. Début du nouvel iPhone, tout le monde capotait pour de vrai. Au début, on se disait, ça va pas remplacer les bons vieux téléphones. Pourquoi on a besoin d'autant de choses dans nos téléphones? Pourquoi avons-nous besoin de 10 000 applications? Et là, finalement, on a tous des gros téléphones dans nos poches avec ces 10 000 applications-là. Mais au moins, on a passé un peu cet âge hein, où on avait des applications de genre « Regarde, je vais boire une bière sur mon sel » ou « Regarde, je vais tirer 6 balles avec mon sel », tu sais, comme des simulateurs de fusils. Bref, il y avait plein de choses sur ces téléphones-là. Là, on est rendu vraiment au plus simple de son appareil, on peut presque le dire de cette façon-là. On l'utilise pour communiquer, on les utilise pour interagir la plupart du temps, prendre des photos, bref. On est loin de l'époque du petit iPhone où ce que l'on capotait parce qu'il y avait un poisson dans le fond de l'écran. Alors, iPhone 12, iPhone 12 mini avec 5G. Alors, les nouveaux modèles d'iPhone 12 5G, alors c'est comme ça qu'on les appelle, vont en fait avoir la puce 5G. Alors, cette puce-là n'est pas non la puce que le gouvernement veut vous mettre dans le nez en vous passant un test de COVID pour vous contrôler à distance. C'est une nouvelle technologie téléphonique des données téléphoniques, j'ai pas envie de dire données téléphoniques, mais bref, des données. Des nouvelles façons de transmettre des données. Vous vous rappelez, à une époque, on avait le 3G. Hein? Tout le monde capotait, même les iPhones ont fait un iPhone spécial 3G. Ensuite, on a eu le LTE, LTE+, et ensuite, on a eu le 4G. Puis là, on s'en va vers le 5G un peu plus, malgré l'avis des conspirationnistes qui voudraient qu'on retourne à l'âge de pierre avec des téléphones et des fils en cuivre. Alors, les nouveaux iPhones, oui. Alors, ils sont dotés, hein, comme on sait, de l'écran Super Retina de Apple et d'un verre céramique conçu à l'aide d'une cristallisation à haute température qui fait croître les cristaux nano-céramiques en verre 4 fois plus résistants. Alors, votre iPhone va être beaucoup plus résistant qu'il sait. Alors, est-ce que je peux vous dire qu'une cristallisation à haute température qui fait croître les cristaux nano-céramiques en verre 4 fois plus résistants, ça veut dire quelque chose? Non. Je pense que non, mais on l'a vu dans les dernières années. Les téléphones sont de moins en moins brisables. Quand on l'échappe, ce n'est plus la crise autant que ça l'était à l'époque. Maintenant, on l'échappe, il y a peut-être une petite craque où il n'y en a juste pas parce que les écrans deviennent de plus en plus résistant. N'oubliez pas, une époque, hein, les iPhones étaient faits avec ce qu'on appelait du Gorilla Glass. Et ce Gorilla Glass-là, c'était ce qu'on utilisait comme matériel pour les vitres d'hélicoptère. Alors, si ça ne peut pas résister à toi qui l'échappe au bar parce que tu es trop... on ne va pas dire au bar, on va dire à la maison, en rassemblement de 6 personnes et moins, eh bien, il ne devrait pas briser, hein, pas comme ça l'était à l'époque. Sinon, les téléphones, maintenant... sont également IP68 jusqu'à 6 mètres, alors 6 mètres de profond et 30 minutes, ce qui veut dire que vous pouvez échapper votre téléphone dans le lac en espérant que c'est un lac où vous savez un peu ce qu'elle est. Vous pouvez au moins l'échapper pour un maximum de 6 mètres de profond et une durée de 30 minutes. Ça, c'est vraiment ce qu'on dit, les temps recommandés. Est-ce que ça peut aller plus loin? Est-ce que ça peut aller moins loin? Oui, effectivement. Mais eux, ils vous promettent vraiment qu'à moins de 6 mètres de profond et de 30 minutes, votre iPhone devrait résister à ce choc dans l'eau. Sinon, l'extérieur du téléphone, hein, il va être fait en aluminium de qualité aérospatiale, ce qui veut dire que vos iPhones vont pouvoir décoller et aller dans l'espace vous-même. Alors, c'est vraiment les barres, c'est pour les gens qui ont adoré l'iPhone 5, hein, c'est le même design, on va dire, qu'on reprend ici de la part d'Apple. Sinon, deux téléphones, comme je le disais, l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini. Alors, le iPhone 12 va avoir un écran de 6,1 pouces, à peu près comme un sous-marin Subway, et le mini va avoir un écran de 5,4 pouces, ce qui en fait le téléphone le plus compact et le plus léger, le téléphone compatible 5G sur le marché. Alors le prix, ça c'est là que ça fait mal d'habitude, et même pour nous, chers Canadiens, où ce qu'on pense souvent que tout coûte moins cher au Canada. Et non, tout coûte plus cher. L'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini seront disponibles en modèle, ben ça c'est les grosseurs, on le sait bien, 64 gigs, 128 gigs, 256 gigs. Il va être disponible en couleur bleu, vert, noir, blanc et rouge à partir de, et attachez votre tuque avec de la broche, pour l'iPhone 12, c'est 1129 $ canadiens et pour l'iPhone 12 mini, c'est 979 $ canadiens respectivement. Les précommandes commencent le 16 octobre pour l'iPhone 12 et sinon, ils commencent le 6 pour... Pardonnez-moi, c'est ça. Ça va être le 6 novembre pour le iPhone mini 5G et une livraison aux alentours du 13 novembre 2020. Sinon, ben, en plus des caractéristiques, ben, il va y avoir d'autres aussi iPhone. On revient avec l'iPhone Pro et le Pro Max. Alors, le Pro, 6,1 pouces d'écran. Le Pro Max, 6,7 pouces d'écran, qui va être le plus gros écran disponible sur iPhone avant le iPad. Alors, si tu veux plus gros, t'es mieux de t'acheter un iPad. Sinon, ben, dans le modèle Pro, on a aussi la puce A14 Bionic qui est supposée d'améliorer la photographie numérique. Alors, ça risque d'être quand même assez bon. Il faut quand même l'avouer. Ça, je suis prêt à lever mon chapeau pour Apple, que leur capteur photographique, bref, leur technologie pour prendre des photos est quand même sur la coche. Alors, si ça peut aider des photographes professionnels ou même juste des photographes amateurs à faire des plus belles photos de leur muffin, eh bien, pourquoi pas? Sinon, ben, on va pouvoir aussi, en édition vidéo, on va pouvoir aussi faire du Dolby Vision d'un bout en bout, alors jusqu'à 60 images secondes. Alors, du 60 images secondes pour une caméra de téléphone, c'est quand même de quoi qui est quand même assez intéressant pour, comme je le dis, pour les amateurs, pour les hobbyistes hein, de l'écran qui voudraient, par exemple, commencer à faire des films. Eh bien, de plus en plus, il y a une mode hein, de ces fameux films qui sont faits à partir d'un iPhone. Alors, qui sait, peut-être dans le futur, on aura des films 60 images par seconde, mais faits avec un iPhone. Sinon, pour améliorer encore la photographie, bon, on a mis aussi un scanner LiDAR, une technologie qui permet d'accélérer de 6 fois la mise au point des images. Alors, ce petit scanner-là permettrait de recréer des images en réalité augmentée. Ce qui veut dire qu'en fait, avec ce capteur-là, ça te permet de prendre des meilleures photos lorsqu'on est en situation nocturne, lorsqu'il fait noir ou en basse lumière, ce qui est aussi le problème de beaucoup de photographes amateurs. Vous savez que la photographie, hein, ça marche avec la lumière. S'il y a moins de lumière, les photos sont moins belles parce qu'il y a moins de lumière qui peut rebondir sur les surfaces sur lesquelles que vous voulez prendre en photo. Il y a moins de lumière qui rentre dans les capteurs. Et bien que ce scanner-là, on vient résoudre un peu ce problème-là et améliorer la lumière qui peut rentrer dans ce capteur-là. Sinon, ben encore du côté des prix, hein. Alors, offert en 4 couleurs. Alors, ça va être offert en graphite, en argent, en or et en bleu pacifique. Eh oui, pas en bleu, bleu pacifique. L'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max seront disponibles en modèle 128 Go, 256 GB et 512 GB à partir pour le premier de 1399 $ et de 1549 $ pour le Pro Max. Alors, si vous avez envie d'être un pro, vous devez payer un max de prix. Ah, là, 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 que c'est mauvais. Alors, j'espère que vous en savez un peu plus sur l'iPhone, justement. Nous, de notre côté, bon, on va aller en musique. Rouge Pompier s'en vient avec Hippocrampe, oui. Mais juste avant, on va écouter un de mes groupes préférés québécois. On va écouter Malajube avec La Caverne. Tout ça et encore plus à devant vos écrans au CFAK 88.3. retour à Devant vos écrans. Il est présentement 12h32 en espérant que vous allez toujours bien. Éric Laverdure, toujours au microphone dans les studios de CFAQ. Ces grands studios qui se sont tout d'un coup transformés en aquarium. Et oui, alors pour, remplir nos objectifs de sécurité et de santé au travail, et aussi pour s'assurer que tous nos beaux étudiants bénévoles qui viennent ici faire de la radio soient bien protégés. Nous avons installé des plexiglas un peu partout, alors même dans le studio d'enregistrement actuellement, de mise en onde auquel je suis à l'intérieur présentement, il y a des plexiglas un peu partout qui est quand même assez intéressant d'avoir. On a l'air d'être dans un petit aquarium, alors j'aime ça appeler l'aquarium CFAQ. Alors, après avoir parlé du iPhone, après avoir parlé d'Octobre 70, on va parler de alerte COVID. Et oui, vous avez entendu sûrement quelques publicités sur nos ondes dans cette question-là. En fait, je veux vous assurer, j'ai l'application Alerte COVID, oui. Je pense que c'est un bon moyen parmi tant d'autres, mais j'ai quand même quelques critiques à propos de cette application-là. Mais ces critiques-là sont vraiment plus dans la vision technologique de la chose et non dans les questions de « ils vont nous voler nos données » et tout ça. Bon. Alors, l'application Alerte COVID qui a été mise en place depuis une semaine maintenant au Québec, c'est une application qui existait déjà en fait depuis le mois de juillet, qui a été créée par le gouvernement du Canada en collaboration avec deux entreprises ontariennes, BlackBerry, qu'on connaît pour leur téléphone que tout le monde avait dans les années 2006, et Shopify, qui est un portail d'accès pour vous aider à créer des magasins un peu... selon votre site Internet. Cette application, l'alerte COVID, utilise des algorithmes de traçage qui ont été développés par Apple et Google pour leur téléphone iPhone et Android, respectivement. Alors, en quoi consiste cette technologie? C'est que vous avez un capteur Bluetooth dans votre téléphone que vous utilisez peut-être pour des écouteurs, peut-être pour une manette, hein, qui sait. Eh bien, dans ce contexte-là, vous l'utilisez pour recevoir et envoyer des codes uniques lorsque une autre personne avec cette application-là est également activée. Alors, en fait, qu'est-ce que ça fait? C'est que votre téléphone, à moi, par exemple, à Eric, eh bien, mon téléphone a certains codes qui sont uniques à ce téléphone-là. Alors, vous savez, des codes XV90011127, bref, des codes vraiment aléatoires qui sont associés à mon identité, à mon téléphone, et qui sont retransmis et qui sont envoyés un peu par onde Bluetooth à d'autres personnes qui auraient un téléphone avec cette application-là également. Alors, si vous êtes à moins de 2 mètres de cette personne-là et vous êtes à moins de 2 mètres pendant 15 minutes, vous échangez vos codes et là, vous gardez les codes de la personne avec vous également, qui sont des codes encore indéchiffrables. On ne sait pas c'est qui la personne. Et si une des personnes que vous avez rencontrées pendant vos escapades nocturnes, peut-être une de ces personnes-là sera positive à la COVID-19. Alors, cette personne-là se fait donner par la suite un code par la santé publique, par le gouvernement du Québec ou du Canada, bref, ou par la petite madame qui vous rentre un coton-tige dans le nez. Et avec ce code-là, eh bien, vous l'entrez dans votre machine, dans votre téléphone, et ce code-là, par la suite, va aviser toutes les personnes avec qui vous avez été en ne respectant pas le 2 mètres et les 15 minutes. Eh bien, ces téléphones-là vont se faire envoyer un code ou un avertissement pour dire « Vous avez été en présence d'une personne qui a eu la COVID, s'il vous plaît, allez vous faire tester. » Alors, comme ça vous permet que, par exemple, si vous restez pendant 15 minutes d'une sortie sur une terrasse ou dans un parc à côté de quelqu'un que vous avez l'impression qu'il ne fait le pas vraiment et que vous recevez une alerte, ben là, tout d'un coup, vous savez que vous avez peut-être attrapé quelque chose, alors c'est le temps de se faire tester. Alors, tout d'abord, dans la protection de la vie privée, alors il faut comprendre qu'elle ne garde que les codes que vous avez mis, que vous avez reçus, une moyenne de 14 jours. Alors, c'est quand même assez peu. Pendant 14 jours, vous avez les données du monde et à chaque 14 jours, dès que ça fait 14 jours que vous avez cette donnée-là, ben, elle s'efface par la suite parce qu'elle n'est plus utile pour l'application. Alors, c'est quand même une question assez intéressante de se demander est-ce que c'est utile. Tout d'abord, ben, je trouve qu'on met encore, et ça c'est partagé par d'autres technophiles ou même d'experts en technologie, qu'on met l'odieux de rentrer le code qu'on a été négatif sur la personne contaminée. Alors, ce qui veut dire qu'une personne qui aurait soit peu de connaissances en informatique ou en technologie, bref, ou quelqu'un qui politiquement, qui n'a pas envie de rentrer le code, tout d'un coup, qui l'a oublié, hein, vous savez, l'erreur est humaine, eh bien, cette personne-là n'avertit pas les gens avec qui elle est en contact. Alors là, c'est un problème un peu, mais c'est sûr que pour essayer de répondre aux inquiétudes côté données privées et tout ça, il fallait nous assurer que les données, ben, que le gouvernement ne sache pas, par exemple, qui et quoi et quel code est associé à qui. Alors, c'est pour ça qu'on doit demander à la personne qui a été positive pour la COVID de rentrer elle-même son code dans l'application. Sinon, je trouve que cette application-là peut créer aussi, un peu comme le masque, un peu un écran de protection dans nos têtes. Alors, on se dit, ah, je peux sortir, je peux aller voir mes chums, je peux aller danser la rumba parce que j'ai l'application Alerte COVID sur moi, ce qui peut, ce qui n'est pas une protection en tant que tel. Il faut conserver malgré tout les gestes barrières, mettre le masque, être à 2 mètres de distance, moins de 15 minutes avec collé sur des gens. Bref, c'est ça un peu qu'il faut s'assurer de respecter et que l'application va peut-être nous donner une impression d'être un surhomme ou une surfemme parce qu'on a cette application-là. Puis on se dit, on se fie sur la bonté des gens pour avoir installé cette application-là et pour pouvoir l'utiliser. Sinon, un autre point négatif, eh bien, c'est l'utilisation de cette application-là, point final. Certaines données, par exemple en Australie ou en Corée, nous ont prouvé que pour utiliser conformément cette application-là, il faudrait qu'elle soit dans la population au niveau d'environ de 30 à 40%, ce qui n'est toujours pas le cas. On a eu des applications un peu partout dans le monde et on a peut-être vu un maximum de 20 à 25% d'utilisation par la population. Alors, tant que l'utilisation des applications ne sera pas légitimée, ne sera pas non plus grand public, on ne pourra pas vraiment utiliser cette application-là comme une protection pour la COVID. Alors, au final, c'est utile, oui, cette application-là, je pense, parce que ça nous permet d'en savoir un peu plus et peut-être de nous protéger un peu plus, oui, mais il faut faire attention à ne pas croire que c'est la solution miracle et qu'enfin, grâce à ces applications-là, on va pouvoir se protéger ou même se défendre contre la COVID-19. Et sinon, petite parenthèse en terminant sur ce sujet, eh bien, même si vous avez peur qu'on vende vos données ou tout ça, probablement, il y a plein d'autres choses qui pourraient vendre vos données, là, dont un compte Facebook ou un compte Gmail, mais aussi l'application ne contacte que 2 fois par jour le site du gouvernement pour vérifier les codes notamment. Alors, il n'y a pas vraiment un envoi de données personnelles, c'est plutôt « voici ma liste de codes » et les deux listes de codes se vérifient. Il n'y a pas de code positif dans votre liste. Parfait, bonne journée. C'est la seule envoi qu'il y a sur les serveurs du gouvernement. Alors, pour les gens qui auraient peut-être un peu trop peur, n'ayez crainte. Si on veut vraiment savoir où est-ce que vous êtes ou qu'est-ce que vous avez fait, il y a plein d'autres moyens que nos gouvernements ont pour faire ça. Alors, on enlève le chapeau d'aluminium et on s'en va en musique de notre côté. On va l'écouter, un peu techno hein, de ce dernier bloc. On a Game Genie Sokolov qui va nous entertainer ça avec RGB Colors. Mais avant ça, on va écouter Amé Laouni avec Savard.
Assieds-toi, raconte-moi, mon ami. Il y a longtemps qu'on s'est pas chanté nos vies. Verse-toi quelque chose, et c'est là que tu me dis. J'ai tout lâché, ça sert à rien, c'est pas pour moi. C'est pas ma faute si tous les autres sont contre moi. Je vis l'enfer, il y a longtemps que je me sens comme ça. Mais toi dis-moi comment ça va. Ça va, moi ça va. Ça va, moi ça va. Comment te parler de ma vie, te dire que tout m'a réussi. Mais quand je te vois, je t'en parle pas, je te dis ça va. Il est cru, le bonheur, le succès. Je te montrerai tout ce que j'ai, mais t'es pas prêt. Je vis l'amour et c'est encore presque parfait. Avec toi, je change de sujet. Ça va, moi ça va. Ça va, moi ça va. Comment te parler de ma vie, te dire que tout m'a réussi. Mais quand je te vois, je t'en parle pas, je te dis ça va. Ça va, ça va, moi ça va. Ça va, ça va, moi ça va. Comment te parler de ma vie, te dire que tout m'a réussi. Mais quand je te vois, je t'en parle pas, je te dis ça va. Oh,
ma faute. Et le malheur des hommes fait pour le bonheur des autres. Et le malheur des hommes fait pour le bonheur des autres. Faudrait vraiment pas que ça retombe plus bas. Faudrait vraiment pas que ça retombe plus bas. Alors ça va, moi ça va. Ça va, moi ça va. Commence de parler de ma vie, te dire que tout m'a réussi. Mais quand je te vois, je t'en parle pas, je te dis ça va, moi ça va. Ça va, moi ça va. Commence de parler de ma vie, te dire que tout m'a réussi. Mais quand je te vois, je t'en parle pas, je te dis ça va.
We'll be right back.
12h48, toujours en compagnie d'Éric Laverdure dans Devant vos écrans. Alors, en terminant, hein, dans cette dernière partie de Devant vos écrans, ce que je vais essayer d'être un petit peu plus éditorial, je voulais parler de The Social Dilemma. Vous savez, ce grand film hein, que tout le monde se partage, grand film sur Netflix, le film documentaire qui nous présente la réalité de notre consommation de réseaux sociaux par l'entremise d'une famille américaine. Bref, on veut vous conscientiser au mauvais côté des réseaux sociaux qui prend de plus en plus de place dans notre vie politique, mais aussi économique et surtout électronique. Alors, j'ai écouté le documentaire, oui, comme beaucoup d'entre vous, et j'ai rien trouvé de bien nouveau, personnellement. J'ai rien trouvé de choses que tout d'un coup, oui, c'est vrai, c'est tellement vrai. On parle toujours des mêmes ringaines sur tous les mêmes documentaires sur Facebook et les réseaux sociaux. On va parler des méchants algorithmes, on va parler des méchants russes, on va parler des fake news, on va parler des gens qui doivent modérer le contenu, on va parler des chambres d'écho, bref, toujours les mêmes choses qu'on parle dans tous ces films-là. Mais oui, puis surtout dans The Social Dilemma, on aime ça, là, présenter des experts qui sont issus de ces compagnies-là. Alors, par exemple, moi, je suis un ancien Google, moi, je suis un ancien Facebook, voici ce qui est mauvais. Des gens qui auraient pu, faire une action pendant le temps qu'ils étaient là. Je dis ça comme ça. Bref, on parle souvent de tout ça, mais on parle rarement d'une vision très marxiste de la chose, mais bref, on parle pas du système économique et de notre mode de consommation. Alors, on aime ça aussi également parler de la fameuse théorie de la dopamine, hein, que tous ces likes, que tous ces cœurs, que toutes ces émotions nous donnent des petits hits de dopamine, même si c'est une chose qu'on parle beaucoup, mais qui a jamais réellement été prouvée. On aime ça d'en parler. Ça, c'est ma dopamine, moi j'en ai besoin pour me confirmer, tout ça, mais c'est peut-être pas vrai non plus. C'est peut-être des choses qu'on essaie de se faire rentrer un peu dans la tête. Oui, je suis conspirationniste, surtout pour ces questions-là. Bref, le film est rempli des mêmes clichés. Des vice-présidents technologie de ces entreprises qui viennent nous avertir du mal de leur ancien patron. C'est ça. Alors, on parle pas de la réalité du capitalisme, on parle pas de la réalité de la consommation. On vient dire que les jeunes gens, par exemple, sur les réseaux sociaux, ils ont jamais été autant déprimés. Les jeunes gens se suicident, ils ont des crises d'anxiété. Bref, ça va pas bien chez nos jeunes. Et là, tout d'un coup, ce sera à cause de TikTok quand, finalement, nos États néolibéraux, depuis des centaines d'années, bon, que c'est pas vrai, mais depuis au moins un bon 50 ans d'années, désinvestissent en santé mentale ou désinvestissent dans nos systèmes de santé, si on prend l'exemple du Canada ou du Québec. Bref, c'est sûr que si on n'a pas accès à des psychologues, nos jeunes vont encore plus rentrer dans de l'anxiété et du suicide. C'est pas au final TikTok ou Facebook qui a emmené ça quand finalement c'est un mal de vivre. Le mal de vivre qui peut être créé par, oui, des applications comme des réseaux sociaux, mais qui peuvent être aussi faites par plein de choses. Cette course aux meilleures bourses, par exemple, ou de tout de suite se forcer dès le secondaire 1 pour déjà viser ta rentrée universitaire. Bref, il y a aussi ces stress-là qui sont induits sur nos jeunes d'aujourd'hui et que c'est pas notamment juste Facebook le méchant ou TikTok. Bref, c'est souvent ça que je viens critiquer dans les documentaires sur ces grands réseaux sociaux-là. C'est qu'au final, on va blâmer tout ce qu'est-ce qu'il y a autour sans blâmer vraiment ce qui est à blâmer, ce qui veut dire notre méthode de financement, notre méthode de fonctionner en tant que société, qu'il faudrait peut-être revoir pour inclure un peu plus de bon dans cette société-là, peut-être les gens se chicanent tout le temps sur Facebook. Oui, on chicane tout le temps sur Facebook, mais nos sociétés étaient de plus en plus polarisées, même avant le début de Facebook. Ils ont été plus polarisés, oui, à cause de Facebook, mais faut pas oublier que dans les années 90, dans les années 80, la montée de ces radios un peu trash, ça fait drôle de dire ça à la radio, qui faisait tout pour avoir le plus de nombre de codes d'écoute. Bref, alors, il y a quelque chose qui, tout d'un coup, ou sinon même notre mode de travail, par exemple, on n'a jamais eu autant de temps et on n'a jamais eu autant consommé ou on a autant travaillé. Les gens, on se disait que finalement la technologie, les algorithmes allaient nous aider et finalement on travaille de plus en plus, on est productif de plus en plus sans nécessairement avoir droit à une pause ou d'avoir un peu de congé, même avec des salaires qui n'augmentent pas. Alors c'est facile de blâmer les réseaux sociaux, c'est facile de blâmer les outils externes sans nécessairement ne pas blâmer notre propre réalité politique ou même économique. Comme je le disais, on a toujours ces compagnies-là, ces gens-là qui disent « Ah, c'est à cause de l'algorithme, c'est à cause de ci. » Pourquoi sur YouTube, quand j'ai fini d'écouter une vidéo de ça, j'ai une vidéo qui me dit « Voici les 5 secrets de la Terre, pourquoi elle est plate. » Pourquoi? Ah ben, c'est à cause des algorithmes. Mais les algorithmes, c'est qui les contrôle au final? C'est des humains. C'est des humains qui veulent des clics. Ces clics-là qui apportent de la publicité, c'est la publicité-là qui apporte du marketing, le marketing qui fait rouler une certaine économie. Alors, au final, est-ce que c'est vraiment de la faute de XO93 qui fait une vidéo de twerking sur TikTok, ou est-ce que c'est de la faute de ma tante Gertrude qui vient de poster quelque chose de raciste sur Facebook, qu'on s'envenime autant, ou c'est parce que le système a été bâti pour qu'on s'envenime autant, pour qu'on reste sur la plateforme, pour qu'on puisse encore plus voir des produits de consommation et les acheter? C'est ça que je me demande des fois, si... C'est un peu particulier, bref, cette montée-là tout d'un coup qui s'est passée contre les réseaux sociaux. Et là, on voit un grand mouvement de gens qui sont comme « Moi, j'ai fermé mon compte Facebook, moi, j'ai pas besoin de ça, moi, j'ai pas besoin de ci. » Mais moi, je trouve ça assez privilégié comme façon d'agir, parce qu'au final, il y a peut-être des gens qui utilisent Facebook parce que c'est leur seul moyen de communication. Par exemple, en Inde, Facebook a emmené un Internet gratuit pour l'utilisation de Facebook. Alors, pour pouvoir communiquer avec ta famille, tu dois être sur Facebook. Tu peux pas utiliser un téléphone comme normalement et tout ça. Bref, il y a souvent... C'est très privilégié, c'est très américain, et je parle du continent, là, de tout d'un coup dire « Ah ben moi, je me désinscris de Facebook, j'ai pas besoin de ça dans ma vie, vous savez, moi je vais contacter mes amis par-ci, par-ça. » Il y a peut-être pas tout le monde qui peut faire ça. Alors, il faudrait peut-être se poser cette question-là de qu'est-ce qu'on veut, premièrement, oui, de nos réseaux sociaux, mais est-ce que c'est vraiment la faute des entreprises qu'on pourrait au final contrôler par nos gouvernements, par nos représentants gouvernementaux qui, eux, ne font rien? Alors, avant de commencer à blâmer Facebook, il faudrait peut-être commencer à blâmer nos gouvernements qui ne font rien, qui ne sont pas éduqués sur la chose technologique, et qu'on devrait les éduquer un petit peu plus, d'avoir du monde qui soit un peu plus éduqué pour venir, notamment... discuter avec Facebook de ces algorithmes-là et peut-être leur dire, ben vous savez, vos algorithmes, mais c'est plus le temps. On va les arrêter. Bref, il faudrait se poser ça. Alors, c'est un peu ça ma critique de Social Dilemma. Et je vous recommande également l'article dans le Jacobin du mois dernier par Richard Seymour sur du nom de l'article « No social media is in destroying civilization ». Alors, je vous recommande tout ça. Alors, c'est déjà la fin de cette première émission de « Devant vos écrans ». Alors, j'espère que vous avez apprécié un peu ce contenu-là. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des questionnements que vous voulez que je réponde. Et sinon, ben en terminant, je pense que c'est important d'en parler. Je veux aujourd'hui souligner les grévistes de Blizzard en France avec la CGT. Alors, c'est Blizzard Activision, qui sont l'une des plus grosses entreprises de jeux vidéo au monde, ont annoncé la fermeture de leur bureau de Versailles en France, l'un des plus gros en Europe. Encore une fois, les profits augmentent, mais les jobs deviennent de plus en plus remplaçables. Solidarité virtuelle avec les gens de Blizzard en France.